J'aimerais partager avec vous un passage de l'Ancien Testament. Qui aime l'Ancien Testament? Moi, j'aime la Bible d'un couvert à l'autre, mais j'aime l'Ancien Testament parce qu'il y a des leçons que nous pouvons tirer et mettre en application encore aujourd'hui. Et j'aime les histoires de la Bible, vous savez, quand la situation est difficile et que Dieu change une situation d'échec en situation de victoire. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder un passage de la Bible dans 2 Samuel au chapitre 9. Et on va parler du roi David. Moi, le roi David, c'est un de mes personnages favoris de la parole de Dieu. Et à travers lui, on va voir, on va pouvoir faire un parallèle entre le roi David et Jésus-Christ, parce que David est une préfiguration de Jésus. Et on va voir qu'à travers ce passage-là, comment l'amour de David, ce que David va faire envers un autre homme, va complètement changer la vie de cet homme. Et c'est la même chose que Dieu veut faire dans notre vie aujourd'hui. Et avant de lire le texte, juste pour vous mettre dans le contexte, le roi David, en fait, vous savez, il avait été oint par Samuel pour être roi, mais ça a pris des années avant qu'il le devienne. Et il y a eu un roi qui était là qui s'appelait Saül. Et Saül a régné pendant des années. Il y avait un fils, Jonathan, qui devait être le successeur du roi Saül, mais tous les deux ont été tués, sont morts. Alors, les deux hommes qui devraient être sur le trône sont morts. Maintenant, c'est le temps du roi David à devenir roi. Vous êtes avec moi? Et la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 8, juste avant le texte, ça nous dit, David, à cette époque-là, maintenant, il régnait sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple et les fils de David étaient ministres d'État. Alors maintenant, David, avec ses fils, règne sur la maison de Juda et la maison d'Israël. Et là commence notre histoire. Alors qu'il est le successeur, qu'il est le roi, David se souvient d'une promesse qu'il a faite à son meilleur ami Jonathan. La Bible nous dit que David aimait Jonathan comme son frère. Et parce qu'il aimait cet homme-là et que Jonathan est mort, maintenant était le temps venu d'honorer la promesse. Et sa promesse de David, c'est de dire « Je vais prendre soin de la maison de Jonathan et de Saül, son père. » Même si Saül avait été un roi injuste, un roi qui avait été maltraité David, David, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, voulait prendre soin de la maison de Jonathan, le fils de Saül. Et le texte, ça va comme suit, on va le lire dans 2 Samuel 9, 1 à 8. C'est un peu long, mais vous allez voir, il faut se mettre dans le contexte et j'espère que vous allez apprécier toute la richesse de la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 8, ça dit, « David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Amen. Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, boiteux, handicapé. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Malkir, fils d'Amiel, à Lodbar. » Et le roi David l'envoya chercher. Donc, de son palais, David va envoyer un serviteur pour aller chercher le descendant de Jonathan. Le roi David envoya chercher dans la maison de Malkir et Mephibosheth, c'est le nom du garçon, Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Mephibosheth !» Il répondit, « Votre serviteur, voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et Mephibosheth se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu le regardes, que tu regardes un chien mort tel que moi? » Je ne sais pas si ce passage-là vous fait le même effet qu'à moi. Mais en fait, c'est juste fascinant parce que la Bible prend soin de préciser que Mephibosheth était boiteux, perclus des pieds. Et juste un peu plus haut dans le texte, on peut voir pourquoi. Parce qu'en fait, Le fait que Méphibosheth était vivant et qu'il était le successeur de Jonathan, c'est lui qui aurait dû être sur le trône. Mais parce que maintenant David avait été roi, Méphibosheth, sa vie est en danger parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il fallait faire tuer tous les prétendants possibles au trône. Vous savez, la série là, The Crown, c'est rien à côté de Méphibosheth. Il se passe des trucs dans ça. Et puisqu'il devait faire tuer les descendants, c'est pour ça que la nourrice a pris Méphibosheth. Elle s'est enfuie et en courant, elle a échappé l'enfant. Et l'enfant est tombé et il est devenu boiteux. Et à cause de ça, il est resté isolé du palais royal pendant des années, depuis son enfance jusqu'au jour où David est roi. Et ça, c'est complètement contraire à la culture. C'est pour ça que David, quand il va envoyer le serviteur, il va dire « Ne crains rien », parce que Méphibosheth avait peur pendant toutes ces années-là que David envoie des serviteurs pour le tuer. Mais David, dans sa bonté, parce qu'il a fait alliance avec Jonathan, il veut lui faire du bien. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire envers nous. Dieu veut nous faire du bien. Mais si tu te mets dans la peau de Méphibosheth, imagines-tu, lui, il a connu le palais. Son grand-père était roi. Son père devait être le roi. Mais parce qu'ils sont morts, sa vie a complètement basculé. Sa vie est passée du palais royal à isolé, loin du palais, boiteux, pauvre. Et pourquoi je me dis, comment il vivait Méphibosheth? Ça ne prend pas une grande révélation pour savoir qu'il n'aimait pas sa vie. Ça ne prend pas une grande révélation pour savoir que Méphibosheth ne s'aimait pas. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Puis lui, quand on arrive pour lui faire du bien, il va dire, je suis rien moi. Comment ça on peut me faire du bien? Moi, je suis comme un chien mort. C'est très dur comme parole. Vous savez, à cette époque-là, dans la culture juive, les chiens, c'était peu considéré. Aujourd'hui, qui aime les chiens? Écoute, quand tu dis te comparer à un chien, moi, en tout cas, quand on dit quelle vie de chien, là, chez nous, c'est pas vrai. J'ai un petit gribouille. Écoute, il fait une vie de rêve, lui. C'est pas possible. Et en fait, lui, mais Méphibosheth, il dit pas quelle vie de rêve. Parce que les chiens dans la culture, c'est rien. Puis un chien mort, c'est encore plus inutile. Fait que, par cette simple phrase-là, la Bible n'en met pas de maquillage, elle nous dévoile l'état du cœur de Méphibosheth. Méphibosheth a vécu un événement tragique qui l'a handicapé pour le reste de sa vie. Je sais pas si tu es avec moi dans ce lieu. Peut-être que tu es un ou une Méphibosheth. Si on est honnête, on a chacune d'entre nous, peut-être, ça nous est arrivé d'avoir un événement, puis je vois des gens qui hochent la tête, un événement qui nous a handicapés. C'est peut-être pas un deuil ou c'est un deuil. C'est peut-être une rupture, c'est peut-être un geste, c'est peut-être un commandement brisé, quelqu'un brisé sur ta vie, une parole de mort, une injustice, un échec, peu importe, tiens toi et Dieu. Peut-être que physiquement, tu ne boites pas comme ça, mais spirituellement ou émotionnellement, pendant que personne peut-être te voit. Il y a eu cet événement qui, même si tu marches sur le chemin de la vie, te laisse perclus des pieds, te laisse que tu marches lentement. Et des fois, ça peut s'être passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que ça s'est passé l'année passée. Mais Dieu, aujourd'hui, et je le ressentais tellement fort à la première réunion et toute la semaine, il y a des Méphibosheth dans ce lieu. Qu'un événement du passé, t'es fort, t'avances, tu fais, mais ça te fait avancer à quelque part difficilement. Et Dieu, comme il l'a fait pour notre vrai Méphibosheth, comme David est allé chercher Méphibosheth, il l'a ramené dans le palais royal. Dieu, aujourd'hui, spirituellement, il veut te ramener dans son palais, dans sa présence. Il veut changer ton passé en quelque chose de glorieux. Il veut changer une situation qui te laisse handicapé à quelque chose de glorieux. Et peut-être que tu t'en aperçois même pas et que je prie ce matin, à l'instant même que le Saint-Esprit puisse mettre quelque chose sur ton cœur. J'étais en jeûne en début du mois de janvier. Il y a quelques années, dans notre maison, on a vécu une situation qui était frappante, difficile. Et bien que ça a été surmonté, et bien que ça fait quelques années et que tout va bien, je me surprends encore quand il y a un téléphone qui sonne, quand il y a un événement. Est-ce que quelqu'un peut s'associer à moi? Et c'est comme si dans ce jeûne-là, le Seigneur m'a dit, l'ennemi t'a assez paralysé. C'est fini. Est-ce que les événements sont arrivés? Oui. Mais est-ce que j'ai la force aujourd'hui pour guérir le passé et t'emmener dans ma maison? Est-ce que Dieu est encore capable, mes amis, de nous faire changer de direction et que les gestes du passé et que les paroles du passé et que les événements du passé n'aient plus d'impact sur ma vie aujourd'hui? C'est ce que Dieu a fait avec Méphibosheth. Et si tu lui demandes, aujourd'hui, après cette réunion, dans les prochains jours, je ne crois pas au Dieu de baguette magique miraculeux. Dans le sens que je crois au Dieu miraculeux, mais pas ping, le coup de baguette. Mais je crois que si, en sortant de cette réunion, tout à l'heure, on va prier, dans les prochains jours, prends ma parole, j'ai la profonde conviction que Dieu va vous faire oublier ce qui est en arrière et il va te porter vers ce qui est en avant. Parce que Dieu a des projets pour vous. Et l'ennemi est en train de paralyser, de saboter. Et c'est terminé. Et c'est ce qu'a fait. Le serviteur a emmené Méphibosheth au palais. La première grande vérité pour toi ce matin, Dieu a une bonté. Sa première bonté, c'est qu'il veut te guérir. Il y a une guérison en réserve pour toi. La deuxième vérité, c'est que Dieu veut être en relation avec toi. Il veut t'avoir près de son cœur. Et c'est tellement beau parce que dans le texte, ça nous dit qu'il est venu, et c'est important parce que la parole de Dieu va répéter 4 fois dans le texte sur 13 versets. Le texte va nous répéter 4 fois ce qui s'est passé dans la vie de Méphibosheth. Ils vont dire premièrement, David va dire qu'il sera à tous les jours à la table du roi. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, c'est écrit, « David lui dit à Méphibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les nations et tu mangeras toujours à ma table. » 2 Samuel 9, verset 10, il va répéter, « Le fils de ton maître mangera toujours à ma table. » 2 Samuel, verset 9, encore le chapitre 9, verset 11. « Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » Verset 13, comme si c'était passé, « Méphibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. » Si la Bible prend le temps de le répéter 4 fois en 13 versets, c'est parce que c'est important. Et peut-être que pour toi aujourd'hui, il mangeait à la table du roi. Mais je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de rois, vous autres, là. Et moi, je suis allée au château Frontenac hier. Écoute, j'aurais bien mangé à la table au château toute la semaine, mais non, on n'est allé que quelques heures, juste l'après-midi, voir comment c'est magnifique. Mais imagine-toi, Méphibosheth, qui, lui, avait perdu cette royauté-là, était reclus, isolé, pauvre, que maintenant, il va venir être appelé à manger à la table du banquet du roi à tous les jours. David aurait pu l'honorer et l'inviter une première fois et lui dire, « Bon, voici Méphibosheth, voilà, c'était le fils de Jonathan, ciao, bye. » Mais à tous les jours, il venait à tous les jours, « Méphibosheth, viens à la table, viens à la table. » Et je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi, la table, le lieu où on discute dans la maison, la famille, c'est à la table le soir, lors d'un repas. Êtes-vous d'accord? C'est là qu'on va échanger nos cœurs. C'est là qu'on va dire nos défis. C'est là. Moi, mon fils, quand il arrive de travailler, il commence toujours son lunch en disant, « Maman, il y a un gars à ma job. » C'est comme ça qu'il commence, qu'il raconte ce qui s'est passé à sa... Ah, bon, voilà, il y a un gars à ma job. Il commence à ouvrir son cœur. Et moi, je crois sincèrement que David, parce qu'il aimait Jonathan comme son frère, il a aimé Méphibosheth comme son frère et il voulait parler avec Méphibosheth à tous les jours. Et Dieu, c'est la même chose aujourd'hui. Il chérit sa relation avec toi. Il veut avoir des cœurs à cœur avec toi. Il veut prendre du temps dans sa présence. Et c'est pas du tout une condamnation ce matin. C'est juste de te t'inspirer, qu'en 2024, te rappeler que tu as une place à la table du roi. Tu as une place à la table du roi des rois, parce que ce roi-là veut être en communion avec toi. Et il va t'offrir les mets les plus succulents. Imaginez le banquet royal. Ça devait être juste fascinant. Et la Bible nous dit que Méphibosheth, la ville où il était isolé, caché, s'appelait la ville de Lodebar. Et Lodebar, le terme veut dire sans pâturage, une terre stérile, probablement un endroit désert et aride, où il devait manger des choses insipides, vraiment pas de très, très belles et bonnes choses. Imagine-toi le 180 degrés du... David va l'honorer, il va lui redonner une dignité, alors qu'il se sent comme un chien mort. Il va l'appeler, il l'emmène au palais, puis en plus, il lui donne accès à des mets succulents. Qui aime manger dans ce lieu? Et je regardais, j'ai mis la petite diapo ici, de voir qu'est-ce qu'il devait avoir sur cette table-là. Et moi, je suis, si vous voyagez un temps soit peu, dans les aéroports, c'est pas l'endroit où on mange le mieux. D'accord avec moi? À l'aéroport, ça coûte une fortune et puis c'est vraiment pas très bon. Et j'étais en Europe récemment et j'étais une Canadienne errante dans l'aéroport et j'avais faim. Et là, je regardais les sandwichs et ça coûtait une fortune pour un petit jambon beurre à 15-18 euros. Et là, du fond de l'aéroport, j'ai aperçu un bistrot français en plein... J'ai jamais vu ça à Charles de Gaulle. Et là, j'ai accouru. Et là, je me suis installée à la... C'est vrai comme c'est là. Je me suis installée à la table dans l'aéroport. J'ai regardé le prix. J'ai pris ce qu'il y avait le moins cher. 15 euros, un œuf mollet avec une mousse au champagne. Et qui aime manger? Amen! Ah, moi, je m'entraîne pour manger. Alors voilà. Alors, j'avais qu'il y avait de la courge, un crumble de... et ainsi de suite. Et j'ai dit, waouh, que c'est pendant que tout le monde mangeait des petits sandwichs, moi, je mangeais un œuf mollet au champagne. Et peut-être que je me préparais pour mon jeûne de 21 jours que j'ai démarqué, mais dans cet endroit-là, je me suis dit, quel privilège, bien sûr au niveau physique, mais quel privilège, mes amis, au niveau spirituel. Dieu veut t'emmener, te donner des mets succulents. Et tu sais que mon petit œuf mollet à 15 euros, savez-vous quel est, c'est pas le plus cher, savez-vous quel est le plat le plus cher ici au Canada? Des sushis. Des sushis, mais pas, qui aime les sushis dans ce lieu? Ah, hein? Et les sushis, en fait, vous pouvez, je vous donne un petit in comme ça. Vous pouvez commander cette boîte de sushis qui s'appelle Losh Kiryori. Et c'est des sushis qui sont livrés dans une boîte en or de, il y a 7 livres d'or pour construire la boîte. Et si vous commandez, ça ne coûte, vous pouvez avoir cette boîte de sushis-là pour la modique somme de 250 000 $ canadiens. Vous êtes chanceux que la Saint-Valentin est passée, messieurs. Hein? Ça aurait pu vous coûter une boîte de sushis comme ça. Et je rigolais comment dans le monde on est prêt à payer des prix extraordinaires pour de la fine cuisine, mais comment au niveau spirituel nous avons le privilège d'avoir accès aux mets les plus succulent. Tu as accès à tous les jours à la table du roi, à la présence de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Tu sais, la Bible, ce qu'elle dit, là, savez-vous que la Bible, c'est vrai, ça? C'est vraiment vrai. Et ce qui est écrit dans la Bible, ça se réalise. Et la Bible nous dit hein, qu'il nous a donné des dons, les dons de l'esprit, la sagesse, le discernement. C'est une richesse que tu peux aller chercher à tous les jours à sa table. Tu as accès à la consolation de Dieu à tous les jours. Tu as accès à la fidélité de Dieu à tous les jours. Tu as accès à l'espoir que Dieu te redonne, l'espoir à tous les jours. Tu as accès à la provision, tu as accès à la guérison. Tu as accès à tous ces mets-là. Et je prie pour moi, premièrement, mais pour chacun de nous, que 2024, sans condamnation. Moi, il y a eu des années de ma vie où j'ai fait le ministère, la prière par condamnation. Mais maintenant, c'est par délice que nous puissions aller dans sa présence. Dieu a une guérison pour toi, mes amis, mais Dieu a aussi une relation qu'il veut pour toi. Comme Méphibosheth, il l'a emmené à la table du roi. Et la troisième bonté que Dieu a pour toi, Dieu a une provision. Je te ramène au texte, ça dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül. Méphibosheth avait perdu tous ses droits. Mais parce que David a usé de bonté, il lui a redonné tout ce que l'ennemi lui avait volé. Je veux le dire haut et fort, Nouvelle Vie, Québec, si tu es un Méphibosheth dans ce lieu et que peut-être l'an dernier, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, l'ennemi est venu te voler. Aujourd'hui, Dieu, cette année, veut te redonner le territoire que l'ennemi t'a volé. Peut-être qu'il est venu voler ta maison. Peut-être qu'il est venu piller tes enfants, ton mariage. Peut-être que c'est un échec à l'université, un échec professionnel, un échec financier. Mais Dieu veut te redonner. Il y a un texte dans le livre de Joël que je veux vous partager. Ça dit, et le Seigneur m'a donné ce passage-là durant mon jeûne et je l'ai pris pour moi. Et je peux juste vous dire que dès janvier, j'ai vu un retour de ce que Dieu m'a dit, que l'ennemi a lâché prise sur quelque chose dans ma maison. Ça disait, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous serez rassasiés. Peut-être que spirituellement, tu n'es pas rassasié. Peut-être que tu as l'impression d'être dans un désert spirituel. Peut-être que tu as l'impression qu'un aspect de ta vie est stérile et désertique, comme Méphibosheth. Mais comme David a redonné les terres, Dieu veut te redonner et te rassasier spirituellement. Ça dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Est-ce que tu as l'impression qu'une portion de ta vie, de ton cœur, de ton âme, que c'est la sécheresse? Tu peux fonctionner, tu avances, tu aimes Dieu, mais si tu es honnête, il y a une portion de ta vie, c'est la sécheresse, c'est volé. Verset 25 de Joël, ça dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu veut remplacer ce qui est volé parce que Dieu a des grands plans pour cette église-ci. Dieu, au niveau collectif, ce n'est que le début de ce que vous allez voir à Nouvelle Vie, Québec. Et Dieu va redonner de grandes choses. Dieu veut redonner ce qui a été volé. Il veut collectivement redonner, mais dans la vie de quelqu'un personnellement. Mais il veut redonner, mais il veut donner un nouveau territoire. Il y a des gens dans ce lieu, vous êtes à un carrefour de vie. Peut-être que tu as une prise de décision et le Seigneur t'appelle à quelque chose. Peut-être c'est un pas de foi vers l'avant. Tu as quelque chose à faire. Et le Seigneur me donnait ce passage-là dans Josué, hein. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Nul ne tiendra devant toi. Et je crois sincèrement, c'est rare que je dis ça, et je pense que Pasteur JP me connaît assez. Je ne me considère pas du tout comme mon ami Luc Dumont avec un ministère prophétique, mais je recherche de plus en plus que je vous prêche les mets succulents de la table du roi. Et j'essaie d'écouter de plus en plus ce que Dieu veut faire. Et une chose est certaine, c'est que je sais que Dieu veut guérir des Méphibosheth aujourd'hui. De tout mon cœur. Que tu es venu ici, il y a une portion de ta vie, tu es boiteux, mais Dieu va te relever cette année. Mais je sais aussi que Dieu va redonner, mais va donner, JP, un nouveau terrain, physiquement, un nouveau lieu, en son temps, de la façon, mais ça va être un lieu qui va être marquant. Et Dieu va redonner un territoire donné. Et la dernière chose, alors que j'arrive à la fin de ce message, j'ai dit, Méphibosheth, bonté numéro un, vérité numéro un, n'oublie jamais, Dieu a une guérison pour toi. 2, Dieu a une relation, il chérit, il veut être en relation avec toi. 3, Dieu a une provision. Quand il a redonné les terres, il a donné toute l'autonomie et la dignité à Méphibosheth. Et mon dernier point, Dieu a une mission pour toi. Dieu nous donne, nous bénit, nous transforme pour que nous soyons, nous aussi, un outil de bénédiction. Et je vais finir ce message comme j'ai commencé. La phrase que j'ai dit, David a dit, « Reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse témoigner de la bonté de Dieu. David aurait pu être amer contre la famille de Saül parce qu'ils l'ont maltraité. Mais parce que David connaissait Dieu, parce que David aimait Dieu, parce que David avait connu les bontés de Dieu, il a dit, je ne regarderai pas à ce que la famille de Saül m'ont fait mal, mais je veux regarder à la bonté de l'Éternel. Et je ne vais pas faire le mal pour le mal. Je vais transformer le mal en bien. Et je vais faire du bien à la maison de Saül. Et je vais faire de la bonté. Et Dieu veut a des bontés en réserve pour vous, mais il a des bontés en réserve pour moi aussi, afin que je puisse donner les bontés de l'Éternel autour de moi. Peut-être que tu es Méphibosheth dans ce lieu. Dieu a une guérison, mais Dieu nous appelle aussi à aider des Méphibosheths autour de nous et d'user de bonté envers les gens qui en ont besoin. Il y a une citation qui dit « La plus grande chose qu'un homme puisse faire pour son Père Céleste, c'est d'être gentil avec ses autres enfants. » Et j'ai une grande vous savez, franchement, JP, j'ai un grand ministère prophétique depuis le début. Là, tu vois, je les prophéties, là, ça y va comme ça. Mais j'ai une dernière grande prophétie pour vous. Prenez des notes, Nouvelle Vie, Québec. Savez-vous que les chrétiens, ça devrait être gentil? Entre nous, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez un grand appel, si vous avez des followers sur Instagram, TikTok, tous connaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et la mission que Dieu nous donne, une fois qu'il nous a guéris, qu'il nous a nourris à sa table, qu'il nous a redonné ce qui a été volé, il va le faire. Ce qu'il nous demande en retour, c'est que nous puissions user de bonté envers les gens autour de nous. Que nous puissions être des lumières qui brillent, des sources d'encouragement pour des gens autour de nous. Et je termine là-dessus, vraiment une minute 45. Qui aime, il y a les Jeux olympiques cet été 2024 à Paris. Moi, j'aime les Jeux olympiques. Qui aime les Jeux olympiques? Si moi, j'aime les histoires d'athlètes qui gagnent des médailles. Bon, je sais, moi, j'ai enseigné à mes enfants l'important, c'est de participer. Mais dans le fond de mon cœur, l'important, c'est de gagner. J'aime ça. Je leur ai dit à la première, dites-leur pas non plus, là, ils croient. Et toutes ces histoires-là d'Olympiens qui ont travaillé fort puis ont emporté des... Et il y a une histoire que j'ai lue récemment qui m'a frappée. Et j'étais touchée parce que c'est l'histoire d'une équipe canadienne aux Jeux olympiques de Londres. Ils ont couru le relais 4x100 mètres. Et là, nos gars, ils étaient vraiment pas... Ils devaient pas gagner, ils étaient vraiment pas très bons, mais ils se sont rendus jusqu'en finale. Et là, à la finale, vous voyez, le coup de pistolet part. Nos Canadiens font le relais, premier relais, deuxième relais. Son dernier, toi, imaginez-vous. Mais, à un moment donné, il commence à remonter. Et là, à l'avant-dernier relais, le gars, il avance. Passe le relais au dernier coureur. Et là, le gars, il court toute la force. Et là, il arrive, file d'arrivée, et on finit troisième. Bon, il n'a pas gagné quand même, là, mais l'effort est... Je fais une blague. Mais troisième, c'est quand même pas si mal, tu sais. Et là, écoute, les commentateurs, écoute, les drapeaux canadiens, une remontée, sont extraordinaires. Puis celui, le gars, le dernier, qui a extraordinaire. 7 minutes après, il commence à annoncer la disqualification de nos Canadiens. Tout le monde est déçu, tout le monde, les commentateurs, Puis là, tout le monde se posait la question, pourquoi ils ont été disqualifiés? Bien, imaginez-vous donc que le dernier coureur, juste avant de remporter, de passer le fil d'arrivée, il a mis le pied sur la ligne. Un millimètre sur la ligne, ça a dépassé. Et à cause de ça, il a été disqualifié. Imagine, tu passes de héros à zéro, de victorieux à la honte. Puis là, tu sais comment on est, nous autres. Ah, il était super bon il y a 2 minutes, il y a 7 minutes, mais là, c'est franchement, comment ça qu'il ne savait pas qu'il ne fallait pas piler sa ligne? Comme si, en passant, le gars, il a fait exprès pour piler dessus, tu sais. Et là, on commence à juger et à juger, ainsi de suite. Et combien des fois dans notre vie, on a déjà pilé sur la ligne puis dépassé un petit peu. Et il y a un petit jeune homme, Terre-Neuve, il vient de Terre-Neuve, 10 ans. Il s'appelle Elijah Porter. Il est à Terre-Neuve, il écoute ça sur sa télé. Le petit gars, il est pris de compassion. Puis il se dit, mais il fait donc bien pitié, pauvre gars. Que puis les... Moi, j'aurais été mon genre. Écoute, le petit gars, il est pris d'émotion. Mais lui, il n'est pas juste dans l'émotion. Il s'est dit, moi, je vais faire quelque chose. Et là, il a décidé d'écrire une lettre à l'équipe olympique du relais 4 fois 100 mètres. C'est une histoire vraie, vous pouvez lire ça. Et Élie, je vais vous lire la lettre alors que je termine là-dessus. Ça dit, je suis Élijah Porter. J'ai 10 ans et je vis à Terre-Neuve, au Canada. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé le 11 août, j'ai su que c'était mal. Les règles n'étaient pas bonnes. Mais enfin, j'ai réalisé à quel point vous étiez bon. Nous sommes Canadiens. Là, le petit gars, il met toute la gomme pour les encourager. Nous sommes Canadiens. Nous persévérons. Nous créons des vies meilleures les uns pour les autres. Le froid ne nous a pas empêchés de vivre dans le Nord. Quand t'es prêt à tout pour encourager. Là, il va même ajouter, nous avons pas perdu la guerre de 1812. Les intentions sont juste trop bonnes. Il va dire, nous nous adaptons et nous survivons. Nous avons gagné notre liberté. Et là, il dit, un jour, si je deviens biologiste, si je deviens riche et si je m'en souviens, je donnerai de l'argent aux Olympiens canadiens d'été et d'hiver. Et là, il ajoute, j'espère que la médaille vous plaira, Élijah. Et en fait, Élijah Porter avait gagné une petite médaille Timbit comme joueur de soccer. Mais lui, puisque les Canadiens avaient perdu leur médaille, il a dit, ben, je vais leur au moins leur donner la mienne. C'est beau, hein, ouais. Et les Canadiens ont été tellement touchés par ce message-là qu'ils ont pris l'avion pour aller à Terre-Neuve, quelques mois plus tard, rencontrer le petit jeune homme pour lui dire comment la lettre, cette simple lettre-là, leur avait fait du bien et leur avait redonné confiance, alors que tout le monde les dénigrait partout dans les médias et que ce petit jeune homme-là, avec des mots bien simples, peut-être douteux un peu, a réussi à encourager des gens qui courent la course. Nous sommes ces témoins-là, comme David, il y a des Méphibosheths autour de nous. Dieu a usé de bonté, va user de bonté envers nous. Et il nous demande que cette année, nous puissions regarder les Méphibosheths autour de nous, afin que nous puissions être une source d'inspiration, d'encouragement pour les gens qui en ont besoin. Dans une société, mes amis, qui en ont drôlement besoin. Nous avons brillé, Nouvelle Vie Québec, vous brillez, continuez à briller. Amen, je vais vous demander de vous lever dans ce lieu. Vous avez été extrêmement patients. J'aimerais juste inviter les musiciens à venir, parce que j'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais prier, j'avais un sentiment, j'aimerais à la première réunion, parce que le temps allait rapidement, de ne pas m'être arrêté pour prier spécifiquement pour des Méphibosheths dans ce lieu. Et cette fois-ci, je veux vraiment m'arrêter, pasteur. J'ai pu prendre le temps sans prendre des heures. Mais je crois sincèrement que Dieu veut venir toucher quelqu'un et guérir dans ce lieu. On ne peut pas entendre un message comme ça de quelqu'un que sa vie a basculé, que quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, qui a été isolé avec des conséquences que Dieu a ramenées sans penser, moi je suis Méphibosheths, Seigneur viens le faire dans ma vie aussi. Alors que tout le monde a les yeux fermés en ce moment. Maintenant c'est entre toi et Dieu et juste te demander si tu es Méphibosheths dans ce lieu. Si tu te sens comme Méphibosheths, tu peux mettre ta main sur ton cœur ici. Dire, Seigneur, cet événement a chamboulé ma vie. Seigneur, je suis rentrée dans ce lieu. Je crois que j'ai encore des traces de cet événement-là. Il s'est passé quelque chose que même si j'avance sur le chemin de la vie, je marche à un aspect de ma vie plus lentement. Et j'ai besoin que tu viennes me toucher aujourd'hui. Seigneur, je te prie, Seigneur, par obéissance devant toi, Seigneur, par soumission devant toi, mais avec autorité, Seigneur. Ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors que nous sommes ici, non pas pour jouer à l'Église, Seigneur, mais parce que nous sommes l'Église. En ce moment, je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher un homme et une femme qui a besoin d'une intervention dans sa vie comme Méphibosheths. Seigneur, je te prie que tu viennes enlever, Seigneur, les choses du passé, que tu viennes effacer des paroles, des gestes, une mémoire qui demeure, Seigneur, et que tu mets le compteur à zéro, Seigneur. Ça reboot en ce moment, Seigneur. Les choses repartent. Seigneur, je prie pour une transformation, comme tu le fais pour Méphibosheth, que ta bonté puisse toucher les cœurs, Seigneur. Seigneur, souffle. Je te dis merci à l'avance, Seigneur, parce que tu accompagnes ta parole par des signes, Seigneur, par des miracles et des guérisons. Seigneur, je te remercie pour cette magnifique église. Je te remercie pour cette église, Seigneur, des pierres vivantes rassemblées ensemble. Je veux nous offrir à toi, Seigneur. Seigneur, fais de nous des David qui vont rechercher des Méphibosheth. Fais de nous des Élijah porteurs qui vont avoir des paroles de vie, Seigneur. Je prie, fais-nous briller. Mets des gens sur notre route, Seigneur, de toutes les sortes, Seigneur, que nous n'ayons plus de jugement, Seigneur, mais que nous soyons des pierres lues, des épîtres lues, afin que les gens puissent te connaître, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, je te prie pour un réveil dans cette salle. Je te prie pour une croissance, Seigneur, bien au-delà de 3 réunions, Seigneur. Tu appelles, Seigneur, de partout, Seigneur, et je te dis, utilise-nous, Seigneur, pour être des fontaines de vie, des sources d'encouragement. Seigneur, que tu puisses donner des moments de bénédiction à ta table cette année et que tu puisses redonner dans ce lieu ce que l'ennemi a volé. Seigneur, c'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Amen.